Émile Zola, une cage de bête féroce. Un matin, un lion et une hyène du jardin des plantes parvinrent à ouvrir la porte de leur cage, fermée avec négligence. La matinée était blanche et un clair soleil luisait gaiement au bord du ciel pâle. Il y avait, sous les grands marronniers, des fraîcheurs pénétrantes, des fraîcheurs tièdes du printemps en naissant. Les deux honnêtes animaux, qui venaient de déjeuner copieusement, se promenèrent avec lenteur dans le jardin, s'arrêtant de temps à autre pour se lécher et jouir en braves gens des douceurs de la matinée. Ils se rencontrèrent au fond d'une allée, et, après les promesses d'usage, ils se mirent à marcher de compagnie, causant en toute bonne amitié. Mais le jardin ne tarda pas à les ennuyer et à leur paraître bien petit. Alors ils se demandèrent à quels amusements ils pourraient consacrer leur matinée. « Ma foi, dit le lion, j'ai bien envie de contenter un désir caprice qui me tient depuis longtemps. Voici des années que les hommes viennent comme des imbéciles me regarder dans la cage. Je me suis toujours promis de saisir la première occasion qui se présenterait pour aller les voir et les regarder dans leur dans la leur, quitte à paraître aussi bête qu'eux. Eh bien, je vous propose un tour de promenade dans la cage des hommes. » À ce moment, Paris, qui s'éveillait, se mit à rugir d'une telle façon que la hyène s'arrêta court, secouant avec inquiétude. La clameur de la ville montait, sourde et menaçante. Et cette clameur, faite du bruit des voitures, des cris de la rue, de nos sanglots et de nos rires, ressemblait à des hurlements de fureur et des râles d'agonie. « Bon Dieu !» murmura la hyène. « Mais ils s'égorgent pour sûr dans leur cage !» Entendez-vous comme ils sont en colère et comme ils pleurent? Oh, il est de fait, répondit le lion, qu'ils font un tapage effroyable. Quelque honteur peut-être les tourmente. Le bruit croissait et la hyène était décidément, avait très peur. Priez-vous, demanda-t-elle, qu'il soit prudent de se hasarder là-dedans? « Bah, dit le lion, ils ne nous mangeront pas, que diable! Venez donc, ils doivent se mordre d'une belle façon, et ça nous fera rire !» Dans les rues, ils marchèrent modestement le long des maisons, et comme ils arrivaient à un carrefour, ils furent entraînés par une foule énorme. Ils obéirent à cette poussée qui leur promettait un spectacle intéressant. Ils se trouvèrent bientôt sur une vaste place où s'écrasait tout un peuple et au milieu il y avait une sorte de charpente en bois rouge et tous les yeux étaient fixés sur cette charpente d'un air d'avidité et de jouissance. « Voyez-vous, dit à voix basse le lion à la hyène, cette charpente est sans doute une table sur laquelle on va servir un bon repas à tous ces gens qui se presse déjà la langue sur les lèvres. Ce banc-là, pourtant, me paraît bien petite. » Comme il disait ces mots, la foule poussa un grognement de satisfaction et le lion déclara que ce devait être les vivres qui arrivaient, d'autant plus qu'une voiture passa au grand galop devant lui. On tira un homme de la voiture, on le monta sous la charpente et on lui coupa la tête avec dextérité. Puis on mit le cadavre dans une autre voiture et on se hâta de l'enlever à l'appétit féroce de la foule qui hurlait sans doute de faim. Tiens, on ne le mange pas, s'écria le lion désappointé. La hyène sentit un petit frisson agiter ses poils. Mais au milieu de quelle bête fauve m'avez-vous conduite, dit-elle. Elle tue sans fin. Pour l'amour de Dieu, hâtons-nous pas que sortir vite de cette foule. Quand ils eurent quitté la place, ils prirent les boulevards extérieurs et marchèrent ensuite tout doucement le long des quais. En arrivant à la cité, ils aperçurent derrière Notre-Dame une maison basse et longue dans laquelle les passants entraient comme d'autres dans une baraque de la foire pour y voir quelques phénomènes et en sortir émerveillés. On ne payait d'ailleurs ni à l'entrant ni en sortant. Le lion et la hyène suivirent la foule et ils virent sur de larges dalles des cadavres étendus, la chair trouée de blessures. Les spectateurs, muets et curieux, regardaient tranquillement les cadavres. Eh, que disais-je, murmura l'alien. Il ne tue pas pour manger. Voyez comme il laisse s'égâter les vivres. Lorsqu'ils se trouvèrent de nouveau dans la rue, ils passèrent devant un étal de boucher. La viande pendue au croc d'acier était toute rouge. Il y avait contre les murs des entassements de chair et le sang par minces ruisseaux coulait sur les plaques de marbre. La boutique entière flambait sinistrement. Regardez donc, dit le lion. Vous dites qu'il ne mange pas. Ben voilà de quoi nourrir toute une colonie de jardins des plantes. Pendant 8 jours. Est-ce que c'est de la viande d'homme, cela? La hyène, je l'ai dit, avait copieusement déjeuné. Boah! Fit-elle en découvrant la tête. Ceci, c'est dégoûtant! La vue de toute cette viande me fait mal au cœur! Remarquez-vous, reprit la hyène un peu plus loin. Remarquez-vous ces portes épaisses et ces énormes serrures. Les hommes mettent du fer et du bois entre eux pour éviter le désagrément de s'entre-dévorer. Il y a à chaque coin de rue des gens avec des épées qui maintiennent la politesse publique. Quels animaux farouches! À ce moment, un fiacre qui passait écrasa un enfant et le sang jaillit jusque sur la face du lion. « Mais c'est écœurant !» s'écria-t-il en s'essuyant avec sa patte. « On peut pas faire 2 pas tranquilles. Il pleut du sang dans cette cage. »« Parbleu !» ajouta la hyène. « Mais ils ont inventé ces machines roulantes pour en obtenir le plus possible. Et ce sont les pressoir de leur ignoble vendange. Depuis un instant, je remarque à chaque pas des tavernes empestées au fond desquelles les hommes boivent de grands verres pleins d'une liqueur rougeâtre qui ne peut être que du sang. Et ils boivent beaucoup cette liqueur pour se donner la folie du meurtre. Car dans plusieurs cavernes, j'ai vu des buveurs s'assommer à coups de poing. « Oh, je comprends maintenant, reprit le lion, la nécessité d'un grand ruisseau qui traverse la cage. Il est lavé des impuretés et il emporte tout le sang épandu. Ce sont les hommes qui ont dû l'amener ainsi chez eux par crainte de la peste. Ils y jettent les gens qu'ils assassinent. Oh, nous ne passerons pas sur les ponts, interrompit la hyène en frémissant. Mais n'êtes-vous pas fatigué? Il serait peut-être prudent de rentrer. Je ne pus suivre à pas les deux honnêtes animaux. Le bon lion voulait tout visiter, et la hyène, dont l'effroi se croissait à chaque pas, était bien forcée de le suivre, car jamais elle n'aurait osé s'en retourner toute seule. Lorsqu'ils passèrent devant la bourse, elle obtint par ses prières instantes qu'on n'entrerait pas. Il sortait de cet antre de telles plaintes, de telles vociférations, qu'elle se tenait à la porte frissonnante, le poil hérissé. « Oh, venez, venez vite !» disait-elle, en tâchant d'entraîner le lion. « C'est sûrement le théâtre du massacre général. Entendez-vous les gémissements des victimes et les cris de joie furieuse des bourreaux ?» Ah, voilà un abattoir qui doit fournir toutes les boucheries du quartier. Par grâce, éloignons-nous. Le lion, que la peur gagnait et qui commençait à porter la queue entre ses jambes, s'éloigna volontiers. Oh, s'il ne fuyait pas, c'est qu'il voulait garder intacte sa réputation de courage. Mais au fond de lui, il s'accusait de témérité et il se disait que les agissements rugissements de Paris le matin auraient dû l'empêcher de pénétrer au milieu d'une si farouche ménagerie. Les dents de la hyène claquaient d'effroi et tous les deux, ils s'avançaient avec précaution cherchant le chemin pour rentrer chez eux, croyant à chaque instant sentir les crocs des passants s'enfoncer dans leur cou. Et voilà que, brusquement, il s'élève une clameur sourde des coins de la cage. Les boutiques se ferment, le tocsin se lamente d'une voix haletante et inquiète. Des groupes d'hommes armés envahissent les rues, arrachent les pavés, dressent à la hâte des barricades. Les rugissements de la ville ont cessé. Il règne une silence lourde et sinistre. Les belles humaines se taisent. Elles rampent le long de leurs maisons, prêtes à bondir. Et aussitôt, elles bondissent. La fusillade éclate, accompagnée des voix graves du canon. Du sang coule, les morts s'écrasent, la face dans les ruisseaux. Les blessés hurlent. C'est formé deux camps dans la cage des hommes. Ces animaux s'égayent un peu, à égorger en famille. Quand le lion eut compris ce dont il s'agissait, « Mon Dieu !» s'écria-t-il, « Sauvez-nous de la bagarre !»« Oh, je suis bien puni d'avoir cédé à la bêtise d'envie que j'avais de rendre visite à ces terribles carnassiers. Oh, que nos mœurs sont douces à côté des leurs !» Jamais nous ne mangerons, nous, entre nous. Et, s'adressant à la hyène, allons vite, allons, continua-t-il. Ne faisons plus les braves. Pour moi, je l'avoue, j'ai les os gelés d'épouvante. Il nous faut quitter lestement ce pays barbare. Alors ils s'enfuirent heureusement, honteusement et peureusement. Leur course devenait de plus en plus furieuse et emportait car l'effroi les battait au flanc, et les souvenirs terrifiants de la journée étaient comme des aiguillons qui précipitaient leurs bonds. Ils arrivèrent ainsi au jardin des plantes, hors d'haleine, regardant avec terreur derrière eux. Alors ils respirèrent à l'aise. Ils coururent se blottir dans une cage vide dont ils fermèrent vigoureusement la porte. Et là, ils se félicitèrent avec effusion de leur retour. « Ah bien, dit le lion, on ne reprendra pas à sortir de la cage pour aller me promener dans celle des hommes. Il n'y a de paix et de bonheur possible qu'au fond de cette cellule douce et civilisée. » Et comme la hyène tâtait les barreaux de sa cage de plus près des autres, « Que regardez-vous donc ? Demandait le lion. « Ah, je regarde, répondit la hyène, si les barreaux sont solides et s'ils nous défendent suffisamment contre la férocité des hommes. »